Moi, j'allais tout de suite dans les backrooms. On oublie tout, d'un seul coup, police ! Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Comment était réprimée l'homosexualité avant 1982 en France? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Florence Tamagne. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la loi du 6 août 42, signée par Pétain, qui aggrave la répression des homosexuels et qui sera en vigueur jusqu'en 1982. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, comment les gays et les lesbiennes se sont mobilisés pour abroger cette loi? En 1945, si la France fête sa libération de l'occupant allemand, l'heure n'est pas pour autant à la libération des homosexuels. Au contraire, dans l'imaginaire, la résistance victorieuse impose après-guerre l'image du collabo homosexuel. Dans le camp de la collaboration, il y a eu en effet Abel Bonnard, surnommé Gestapette, ou encore Robert Brasillach. Mais, tabou des tabous, le récit officiel cache sous le tapis l'homosexualité de résistants comme Roger Stéphane, Daniel Cordier ou la lesbienne Claude Cahun. Et c'est en toute logique que les juristes de la Libération, sans bruit, vont maintenir la loi de 1942 qui réprime les actes homosexuels aux mineurs de 21 ans, alors que la majorité dite sexuelle est alors de 15 ans pour les hétérosexuels. Cette loi, inspirée par le souci de prévenir la corruption des mineurs, ne saurait appeler aucune critique, lit-on dans le journal officiel. Rideau, régime de Vichy, 4e ou 5e République, l'homosexualité reste le vice des vices. Jusqu'en 1982, c'est donc la loi de Vichy qui va prévaloir en France. La police et la justice vont poursuivre leur chasse aux homosexuels, enchaînant arrestations, paniers à salade, garde à vue, amendes et peines de prison. De longues années de clandestinité, avec leur lot d'humiliations, de vies gâchées et parfois même de suicides.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Un cas parmi d'autres, celui de Georges Archidis, député socialiste, ancien combattant et résistant. Sa vie bascule en 1950 quand il est arrêté dans des toilettes publiques, surpris en compagnie d'un abbé. Scandale, l'affaire s'étale dans les journaux. Georges Archidis sera finalement relaxé, mais le mal était fait. Le député, contraint de démissionner, abandonnera toute vie publique. Autre exemple, celui de Charles Trenet. En 1963, le très populaire Fou Chantant est arrêté dans le Midi de la France suite à une dénonciation. Inculpé d'outrage à la pudeur et d'attentat aux mœurs sur la personne de mineurs de moins de 21 ans, il fait un mois de prison. Condamné, il sera finalement relaxé en appel. Un épisode qui révèle au public l'homosexualité de Charles Trenet, lui qui avait toujours souhaité rester discret sur le sujet. Florence Tamagne, les années 1942-1982 ont été des années terribles aussi pour les homosexuels.
C'est vraiment des années après la guerre. On parle du retour à la normale. Le retour à la normale, c'est la célébration des valeurs familiales.
Le baby boom
qui est mis en avant aussi bien du côté des gaullistes que du côté des communistes. On a même de nouvelles législations qui se mettent en place, l'interdiction par exemple de danser entre hommes à Paris, ou la législation de 49 sur les publications pour la jeunesse qui va servir de point d'appui pour interdire d'affichage des revues comme Arcadie, qui est une revue homophile, c'est le terme qui est employé alors.
Des arrestations d'hommes ou de femmes pour homosexualité, il y en a eu dans tous les milieux.
Il y en a dans tous les milieux. On a des chiffres, au moins 10 000 personnes qui ont été condamnées pour homosexualité durant cette période. On a quelques statistiques dans certains cas, par exemple pour les femmes. On a 106 femmes, en tout cas, qui ont été condamnées au titre de la loi de 42, donc pour des relations avec des mineurs. Et on voit qu'elles sont véritablement de tous les milieux. La moitié d'entre elles sont mariées, ce qui montre aussi la possibilité de vivre une double vie. On a des hommes qui, très clairement, tentent de vivre leur vie homosexuelle sans se cacher, mais on en a d'autres qui vraiment se réfugient dans la sphère privée de peur d'être découverts, d'avoir des conséquences pour leur emploi et pour leur vie sociale.
Les choses changent à partir des années 1970. Un mouvement gay et lesbien voit le jour en France, qui se révolte, qui ne veut plus baisser la tête face à la police, inspiré de la contestation américaine, on se souvient en 1969, d'une descente de police dans un bar gay à New York. Les clients homosexuels, au lieu de se soumettre comme ils le font d'habitude, et bien là ils se révoltent, ils se bagarrent même avec les policiers. Ce mouvement va gagner la France. Dans la nuit du 25 au 26 mai 1977 à Paris, un club gay du 5e arrondissement, le Manhattan, est l'objet d'une descente de police. Michel Chomara, un homme arrêté ce soir-là, raconte.
Une Manhattan, comme on dit aujourd'hui, c'était une boîte de cul. Moi, j'allais tout de suite dans les backrooms. Donc déjà, c'était en pleine action, quoi. Il suffisait de se lancer là-dedans avec une musique bon, 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 bon. On oublie tout et d'un seul coup, police ! D'un seul coup, police ! On a vu en effet des gens qui sont qui ont déclaré leur fonction de policier, carte police à la main, alors qu'ils étaient aussi à poil que nous. C'était d'une confusion mais totale. Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit.
Michel Chomara, qui racontera avoir eu la peur de sa vie, il y a quand même une grande perversité quand même de la police qui se fait passer pour des homosexuels. Ils se mettent à poil dans un bar gay pour pouvoir arrêter les gens. Enfin, c'est sidérant.
Alors c'est le prolongement de stratégies qui existaient déjà au XIXe siècle. On parlait d'agents provocateurs. On sélectionnait souvent d'ailleurs des policiers jeunes, plutôt attirants, pour se placer dans les Vespasiennes en attendant des avances pour pouvoir ensuite justement faire une arrestation en flagrant délit. Là, on a passé quand même un cap, parce que l'outrage public à la pudeur, il faut normalement qu'il y ait quand même la possibilité d'être surpris par des témoins extérieurs. Or là, on est dans un lieu fermé, on est dans une backroom plongée dans le noir, et on a des policiers qui s'introduisent dans le lieu sous couvert d'être eux-mêmes homosexuels et ensuite font allumer les lumières et prennent les clients véritablement sur le vif.
Ouais. Ce Michel Chomara qu'on a entendu, quand il sera condamné, soutenu par le QA, dont vous l'évoquiez, Florence Damain, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, il osera faire appel et même intenter un pourvoi en cassation qui échouera. Peu importe, dira-t-il, c'était un acte historique. Jusqu'alors, les homosexuels rasaient les murs et en restaient là. Et bien donc, ce procès du Manhattan en 1978 devient une tribune pour la cause homosexuelle. C'est cette mobilisation des années 70 qui va conduire à la dépénalisation en 1982, Florence Damagne.
Ah oui, indéniablement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pression qui est exercée par le QAR. Et surtout, ils vont lister toutes les discriminations existantes. Bien sûr, en effet, la législation sur les outrages publics à la pudeur, la loi de 42, mais aussi beaucoup d'autres discriminations, le fait qu'il peut y avoir des clauses relatives aux mœurs pour la fonction publique et dans d'autres métiers d'ailleurs, le fait que la France adhère aux principes mis en avant par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait de l'homosexualité une maladie mentale. Donc tout ceci est listé et fait partie des revendications du QAR et plus largement de toute une série d'organisations.
En mai 2025, le Sénat a examiné en deuxième lecture la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. L'objectif de Robert Badinter avec la dépénalisation de l'homosexualité était l'égalité de tous les citoyens. Il faudra attendre 1999 pour que soit voté le PACS, 2013 pour le mariage pour tous et l'adoption homoparentale. Aujourd'hui, on le sait, l'homophobie existe toujours. En 2024, les services de police ont enregistré 4800 infractions anti-LGBTQIA+, sur l'ensemble de la France. On se souvient du cas de Caroline Grandjean, caressant, enseignante dans le Cantal. lesbienne victime d'homophobie qui s'est suicidée le 1er septembre 2025. Et il faut rappeler aussi, Florence Tamagne, la situation mondiale. 2025, 64 États dans le monde répriment l'homosexualité. Dans 12 de ces pays, les relations homosexuelles sont encore passibles de la peine de mort. Merci Florence Tamagne. Je conseille la lecture de votre livre, Le crime du palace, édité chez Payot. Et à lire également Robert Badinter pour La liberté d'aimer de Dominique Théry aux éditions La Sirène et d'Antoine Idier, Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité chez Textuel. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Fabrice Desmaz et Loïc Frapsos.